presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Je m'appelle Martine Merlinden. Je suis née au tout début des années 50 à Lille, dans le Nord, dans une famille catholique très peu pratiquante. Et à 16 ans, j'ai changé de chemin. J'ai suivi la trace du peuple juif. Et 50 ans plus tard, je suis toujours sur ce chemin. Et je me qualifie de juive de cœur.
Bonjour Martine Merlinden.
Bonjour Ruben.
Votre histoire du côté juif, elle s'est nouée, et c'est suffisamment rare pour le souligner, autour de la découverte d'un crucifix.
Oh, il y a bien des choses avant le crucifix. D'abord, je suis née dans une famille catholique, dans le nord de la France, une famille peu pratiquante, vraiment. Mon père était divorcé, il avait été tellement secoué par les guerres qu'il n'était plus question de croire en quoi que ce soit. Et ma mère était plus croyante, mais enfin, elle avait une foi de petite fille, c'était presque païen. Elle a invoqué les saints quand elle avait perdu ses lunettes, quand il y avait de l'orage, etc. etc. Donc je suis née dans ce milieu-là et à 16 ans, j'ai suivi un autre chemin. Et cet autre chemin qui a été bouleversant pour moi, c'est en fait un chemin d'accompagnement ou de suivre. J'ai suivi le trace du peuple hébreu. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans ?
Alors, à 16 ans, j'ai rencontré, on était tout un groupe de jeunes, et notre seule distraction dans cette banlieue un peu triste, c'était la MJC.
La MJC, c'est la maison de la jeunesse
des jeunes et de la culture. Voilà. Alors, la MJC, c'était quand même un Algéco posé dans plein milieu de la Gadoue, enfin, vraiment pas très attrayant, mais pour nous, c'était vraiment un lieu de retrouvailles. Et au cours d'une des soirées dans cette EMJC, j'ai croisé Myriam. Et Myriam, alors, détonnée complètement dans ce milieu de nordiste, blond, rose, etc., etc., elle venait du Sud. C'est une jeune fille qui était un peu plus jeune que moi. Et elle venait d'Afrique du Nord, donc rapatriée d'Afrique du Nord. Et en fait, on a lié des liens d'amitié, on a partagé des goûts pour la musique, pour les lectures, des choses comme ça. Et au fil de nos conversations, on a quand même noué une amitié d'adolescente. Donc c'était intransigeant, on faisait tout ensemble, absolu, etc. Et un jour, Myriam fait silence, elle parlait beaucoup. Elle fait silence, elle me regarde et elle me dit « Martine, je suis juive. » Et aussi sec, elle essaie d'attraper sa veste pour partir. Comme si le fait de dire « je suis juive » allait me faire la rejeter complètement.
Comme si elle venait de confesser quelque chose de terrible.
Oui, mais de terrible, et de terrible alors qu'elle savait que bon, moi je sortais d'un milieu catholique, même pas très, très acharné, mais à catholique quand même. J'étais élevée dans des écoles catholiques. Elle me balance ça, et moi je lui dis, et alors ? Vraiment, ça ne me posait aucun problème. L'essentiel, ouais, c'était elle, c'était pas ça ou autre chose. Sauf que sa réaction m'a tellement troublée que je me suis interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a, elle a pris sa veste pour partir ? Pourquoi elle a cru que j'allais la rejeter ? Je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, moi, je cherche. Donc, je me suis mise à beaucoup discuter avec elle. Elle n'était pas d'une famille pratiquante. Elle n'avait que sa maman, un peu isolée par rapport à sa famille, donc plutôt cachée. Elle se protégeait beaucoup. Et donc, j'ai cherché. Je me suis rendu compte que je ne savais rien du tout sur les Juifs. Mais rien, rien. Bon, on m'avait parlé, j'avais vu des films, etc. Mais enfin, c'était très, très loin. Et c'était toujours par la focale catho. Et comme je ne savais rien, eh bien, j'ai commencé avec mon petit argent de poche par acheter des que sais-je. Les que sais-je de Chouraki. Donc, j'en ai acheté 4 d'un coup. Il y avait la pensée juive, l'histoire du peuple juif, l'histoire d'Israël et la Kabbale.
Et vous en discutiez avec Myriam ?
Un petit peu.
Du fait juif ?
Mais, ah oui, du fait juif. Mais elle le voyait... En fait, comme elle n'avait pas été élevée dans la religion et plutôt un peu cachée par rapport à son judaïsme, finalement, de temps en temps, je lui apprenais des choses.
C'est un peu comme si elle avait déposé ça chez vous.
Peut-être, oui. Oui, peut-être. Oui, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est cette façon de dire, bon, voilà, je suis juive, qu'est-ce que tu en fais ? Et ben, j'en ai fait pas mal de choses.
Vous en êtes emparée, finalement.
Je m'en suis emparée et surtout, ça m'a interpellée parce que j'ai voulu comprendre. Mmh. Et d'autant plus que, découvrant le monde juif, j'ai découvert la Shoah. Dont personne ne m'avait parlé. Dans les écoles catholiques, dans les années 60... c'est quelque chose qu'on noyait complètement dans les discours ou qu'on n'abordait absolument pas. Dans ma famille, on n'en a jamais parlé. Et j'ai découvert la Shoah.
À travers les livres.
Et elle m'en a parlé. Elle savait. Donc, elle m'en a parlé. Elle avait un grand-oncle qui est mort en camp d'extermination. Donc, un peu à la fois, voyant que je m'intéressais au sujet et que je creusais, elle en est venue à parler un peu de ce qu'elle savait, elle, de son côté.
De l'histoire de sa famille.
De l'histoire de sa famille.
Et ça vous a bouleversé ?
La Shoah m'a bouleversé. Ça a été un effondrement. Ça a été un effondrement intérieur. C'est-à-dire que j'avais vécu quand même dans un monde triste, mais très protégé. Avec des belles histoires de Jésus, machin, etc. Et j'avais cru, moi, en l'humanité. Ça a été fini.
Mais puisque vous parlez de Jésus, justement, cette... première découverte a été catalysée par une autre cachée dans un crucifix.
Alors le crucifix, il existait, il y avait deux crucifix à la maison, un tout petit dans la chambre de mes parents et puis ce gros crucifix qui était dans le salon, au-dessus de la porte, d'une porte condamnée du salon, derrière un énorme philodendron posé sur une table basse. Donc c'était vraiment loin, très haut et loin. Maman adorait son philodendron, donc il fallait le nettoyer régulièrement. Et quand j'ai pu, je l'ai remplacé pour les feuilles du haut. Et puis un jour, dans la liberté de mes 13-14 ans, je lui ai dit, je lui passe un petit coup à lui. Et elle a reculé l'escabeau sur lequel j'étais perché, au risque de me faire écrabouiller sa plante, en me disant, touche pas à ça. Bon. Sur le coup, 13-14 ans, je me suis dit, un gros problème là. Puis, bon, un petit peu à la fois, j'ai oublié. Et quand j'ai commencé à plonger dans les livres à la suite de ma rencontre avec Myriam, j'ai découvert les maranes.
Ouais.
J'ai compris que les maranes cachaient des signes de la religion juive, des éléments de la religion juive dans des éléments catholiques. Donc quand j'ai su ça, je devais avoir à peu près 20 ans, j'ai attendu d'être seule à la maison, je suis remontée sur l'escabeau, j'ai descendu le crucifix, qui était très bizarre, c'est-à-dire qu'il était grand, très lourd, et le Jésus crucifié, il était tout petit dessus. Et donc déjà, c'était assez étrange. Et quand je l'ai retourné et que j'ai enlevé le velours qui était au dos, j'ai découvert que dans ce grand crucifix un peu imposant, il y avait une autre découpe en bois, un crucifix plus petit, qui était incrusté dedans. Et dans ce crucifix plus petit, il y avait une petite encoche. Donc j'ai déplacé tout doucement la lamelle, et puis j'ai vu quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez vu ?
Moi, je crois avoir vu le parchemin qu'on met dans les mezouzas. Le problème, c'est que j'ai à peine touché, il est tombé en poussière. Donc j'ai vite refermé.
Vous avez vu de l'hébreu ?
Oui, mais comment dire ? Je ne le jurerai pas sur le bûcher. J'étais tellement imprégnée, j'avais tellement envie que je me suis dit, après, avec le recul, avec l'âge aussi, je me suis dit, mais est-ce que tu es sûre d'avoir vu de l'hébreu ? Mais je crois que oui, vraiment, je crois que oui.
En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu sur le moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant toutes ces années, de vos 13 à 20 ans, vous avez vécu, vous avez transporté avec vous cet avertissement maternel,
ne touche pas
au crucifix.
Ne touche pas à ça.
C'est-à-dire que ça s'était logé très profondément en vous, cette interdit.
Ah oui. Et en plus, bon, cette histoire de crucifix, quand même, c'est quelque chose qui m'a marquée depuis l'enfance. Ma mère avait voulu absolument qu'on soit formés. Donc, elle nous a envoyé suivre le catéchisme chez un curé qui était en fait un aumônier des armées. C'était le curé de la paroisse, il y a une grosse barbe, un gros bonhomme. Donc, on suivait les cours de catéchisme dans une église glacée. Et derrière ce gros bonhomme qui nous faisait peur, il y avait un énorme crucifix avec un cadavre. Et j'étais toute petite. Je suis rentrée, j'étais avec ma sœur, on en a fait des cauchemars. Elle nous a retirés du catéchisme.
Et donc, cette éventuelle mezouza cachée dans le crucifix, c'est littéralement pulvérisé. Donc, pour vous, c'est un pur souvenir. Il n'y a aucune preuve de ça.
Aucune, d'autant plus que le crucifix, au décès de maman, qui s'est produit dans des conditions assez dramatiques, tout a disparu. C'est-à-dire que la maison a été vidée en urgence. Et quand j'ai demandé à ma sœur, mais qu'est-ce que tu as fait du crucifix, de ceci, de cela, elle m'a dit, oh, écoute, tout est parti.
Et quelle conclusion est-ce que vous en avez tiré ? Qu'il y avait éventuellement une mezouza cachée derrière le crucifix, qui était lui-même caché dans un plus grand crucifix ?
Moi, je me suis dit que dans ma famille, du côté maternel, on disait, souvent entre nous, on disait qu'on avait des origines espagnoles. Je me suis dit, bon, il doit y avoir peut-être une origine marane.
Et est-ce que vous avez interrogé la principale intéressée, votre mère ?
Oui, qui a fait celle qui ne comprenait rien, qui m'a dit mais non, pour elle, c'était absolument tabou.
Donc ça serait une sorte de maranisme au carré, c'est-à-dire que le maranisme, c'est déjà la dissimulation, oui. Là, ça serait la dissimulation.
Et moi, j'ai mis mes pieds, tac, dans la fourmilière. Et j'ai bien embêté maman, je crois, surtout quand je suis partie en Israël.
Ce moment furtif, évanescent, ce souvenir pur, il a ouvert une porte, tout un monde intérieur, et qui vous a conduit ensuite en Israël.
Alors, je revenais d'Israël quand j'ai fait ça. C'est-à-dire que je suis partie en Israël suite à ma rencontre avec Myriam, aux lectures que j'ai faites, aux amis juifs que j'avais autour de moi par l'intermédiaire de Myriam. Et je suis partie à 18 ans en Israël. Donc, quand j'ouvre ce crucifix, j'ai 20 ans. Donc, ce n'est pas lié vraiment au crucifix. Le crucifix, il est venu, et ce petit parchemin, il est venu me réconforter. Il m'a fait un petit signe en me disant, bon, voilà, il y a un peut-être qui est un petit peu ancré plus grave.
Une appartenance concrète, éventuelle, peut-être. Infinitésimale à
voilà,
ce peuple.
Voilà, ce que disent mes amis juifs. Ils disent, t'as une petite cuillère à café de sang juif. Ils sont marrants, et je les adore.
En Israël, vous aviez déjà vraiment côtoyé le peuple juif.
Ah oui,
parce que vous êtes allé directement, on est dans les années 60, on est en 1970, au kibboutz.
Carrément. Ah oui, parce qu'en plus, bon, il y avait cet intérêt pour Israël, il y avait l'intérêt aussi pour tout ce qui était socialiste. Pour moi, j'étais partie là-dedans. Et donc, c'était le kibboutz. Ça ne pouvait pas être autre chose.
Vous pouvez nous raconter cette expérience ?
Si vous voulez. Donc, d'abord, j'ai eu cette adresse du kibboutz par une amie que j'avais rencontrée en Corse, dont les grands-parents habitaient à Regavim. Donc, j'ai pris contact, on s'est mis d'accord. Et puis, j'ai débarqué donc, en Israël le 9 avril 1970, le jour de mes 18 ans. Alors là, faut bien se situer les années 70. Hein. On est en plein flower power, beatnik et compagnie. Donc, je débarque avec ma guitare, toute seule.
C'est où, Regavim ?
Alors, Regavim, c'est entre Tel Aviv et Haïfa. Mmh. C'est pas loin de Césarée. Mmh. C'est à l'intérieur des terres, du côté de Césarée. Donc, me voilà à Regavim. Et puis, j'étais comme une enchantée, là. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Je volais dans le bus. Les gens me regardaient en disant, elle est complètement tarée, celle-là, ou elle est droguée, je ne sais pas. Mais j'étais heureuse. Mmh. Voilà. C'est vrai que c'était la première fois de ma vie que je prenais le chemin de ma vie. Mmh. Ah, c'était clair. Donc, me voilà à Regavim, et à Regavim, j'ai fait tout ce que font les volontaires. C'est-à-dire qu'on m'a mise sur le planning de travail. J'étais logée dans le baraquement des jeunes volontaires. Bon, c'était vraiment les baraquements de l'époque, donc tôle ondulée, parpaing, etc. Et puis, j'ai rencontré pas mal de personnes et des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué.
Oui, vous racontez aussi cet Israël du début de ce pays, encore peuplé de gens écorchés vifs la Shoah.
Ah oui, vraiment. Bon, et c'est vrai que comme je travaillais en équipe, soit au Pamplemousse ou ailleurs, etc., je les rencontrais peu. Et un peu à la fois, j'ai eu des contacts plus serrés, notamment en travaillant avec Léa. Léa, ça a été très marquant comme rencontre. Alors, je crois qu'on m'a envoyée travailler chez Léa. Elle s'occupait de la laverie. C'était une petite femme. Elle devait avoir à peine la cinquantaine, peut-être un peu plus. C'était difficile à dire. Et elle vivait dans ce milieu terrible de la laverie, avec des grosses machines à laver qui faisaient un bruit d'enfer. Et elle traitait tout le linge du kibboutz. Comme ça. Donc, je l'ai aidée à porter les paniers, à remplir les machines, vider les machines, etc. Et puis, un jour, on avait fini, je crois que toutes les machines avaient fini de tourner, et elle me dit, maintenant, tu vas repasser. Donc, je me mets au repassage, sauf que moi, repasser, moi, ça fait 12. Donc, elle arrive et elle me dit, mais non, c'est pas comme ça. Elle m'arrache le fer des mains, elle me dit, regarde. Et sa manche se relève. Je vois... Je vois la marque des camps.
Et le tatouage.
Le tatouage. Ça m'a fait le même effet qu'aujourd'hui. Donc, j'avais vu des photos de la Shoah, j'avais lu des tas de choses sur la Shoah. Mais là, elle sortait des camps.
Bah, c'était concret.
Concret, humain, violent. Parce qu'en plus, Léa, c'était pas une tendre, quoi. C'était vraiment quelqu'un de dur. Et quand je suis ressortie de cette expérience-là, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'elle est à la laverie ? Est-ce qu'elle lave tout le linge pour faire sortir les cauchemars ?
Et vous en avez parlé avec elle ?
Non. Non, parce qu'en fait, quand elle m'a vu voir son tatouage, elle m'a... C'était niette. Pas question de parler de ça. Mais vraiment, un rideau. Et après, j'en ai parlé avec d'autres personnes au kibboutz qui m'ont dit « Oui, oui, elle a vécu là-bas, jeune, elle a été déportée, et ça a été terrible. » Donc elle n'en parle jamais.
Ça devait être une atmosphère étrange à Israël des années 70, parce qu'il y a effectivement cette ambiance flower power, beatnik, que vous décriviez tout à l'heure dans le bus. Et en même temps, c'est un pays de d'écorchés vifs et de survivants des camps de concentration et d'extermination.
Tout à fait. Il y a ça, et puis il y a aussi la volonté des Israéliens de construire le pays. Ouais. Donc on ne s'embête pas avec les états d'âme des petits Français, des petits Américains qui viennent travailler. Vous êtes là pour travailler, on bosse. Et pareil avec les jeunes du kibboutz. Les jeunes du kibboutz, bon, de temps en temps, on les voyait, on discutait avec eux, mais ils n'étaient pas curieux du tout de nous. C'est-à-dire que pour eux, je crois qu'ils nous prenaient pour des enfants gâtés. Ils savaient qu'on était là de passage et eux, ils avaient tout à construire.
Comment est-ce que les Israéliens sur place, vous voyez, vous, comme non-juive qui vient travailler en Israël ?
Mais en fait, je n'avais pas beaucoup de contact avec eux. C'est ça le problème. C'est que les gens du kibboutz, à part le travail, c'était difficile de discuter avec eux. Alors, il y a eu Max, qui était donc ce vieux monsieur... à la tête blanche qui faisait un peu taire tout le monde. Et puis, il y a Gad. Gad, j'ai pleuré auprès du secrétaire de kibboutz et je lui ai dit, je veux faire une garde de nuit. Alors, il m'a dit, mais non. J'étais taillée comme une allumette à l'époque. Non, tu ne vas pas faire ça. Et puis, finalement, Gad a dit, si, je vais apprendre avec moi. Quand elle sera fatiguée, elle rentrera. Donc, j'ai fait une petite ronde comme ça. Donc, lui, il m'a posé des questions. Il m'a dit, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Etc. J'ai dit, je ne sais pas trop, justement. J'avais envie, de toute façon, de venir en Israël. Et à l'époque, je ne savais pas si je n'allais pas m'installer, si de venir d'une façon ou d'une autre, rester en Israël.
Et pourquoi vous ne vous êtes pas installé, finalement?
Oh là, c'est grâce à ma mère. Elle a fait des pieds et des mains. D'abord, j'avais travaillé pour me payer le billet d'avion pour partir, mais ils m'ont payé le billet d'avion pour revenir, ça c'était clair, et ma mère m'a fait promettre de revenir, et quand je suis retournée, après le kibboutz, je suis retournée un été au cours à l'université hébraïque de Jérusalem pour suivre les cours d'été, et en 73, j'étais... à la synagogue, le jour de Kippour. Et quand je suis rentrée, ma mère a fait une tentative de suicide.
À cause de votre...
Non. Elle était très fragile. Elle était très... Maintenant, on dirait qu'elle était bipolaire, mais à l'époque, on n'avait pas diagnostiqué ça.
Et donc, vous avez décidé de rester auprès de votre mère.
Et c'est elle qui m'a supplié.
D'accord.
C'est elle qui m'a dit, mais tu vois pas, c'est un pays en guerre, je veux pas que tu repartes là-bas, etc. Bon, j'y suis repartie, mais plus en touriste après. C'était plus pareil.
Vous évoquiez justement Jérusalem à l'instant.
Oui.
C'est un autre lieu qui a beaucoup compté pour vous. Vous avez une belle formule au sujet de Jérusalem. Vous dites que c'est le symbole d'une autre vie.
Oui. Je ne sais pas trop ce que je mets là-dedans. Mais pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que quand j'ai découvert Jérusalem, là aussi, ça a été quelque chose d'assez étrange. On est parti en stop avec l'une des jeunes femmes qui travaillait avec moi en tant que volontaire, Malka, la gourmande, et on est arrivé à Jérusalem, on a fait le périple dans des camions, dans des trucs comme ça, puis on est arrivé dans un coupé sport à Jérusalem, un type qui nous a pris en stop avec de la musique classique, et quand on est arrivé, tchoc, j'ai découvert Jérusalem, et le monsieur qui était au volant a dit, voilà, et il a roulé tout doucement pour que je découvre. Bon, ça a été bouleversant pour moi, Jérusalem. Quand je marchais dans les rues de Jérusalem, j'avais l'impression d'être sur un tapis volant. C'est, Et je ne peux pas l'expliquer. Il y avait quelque chose qui transfusait des pierres, de la lumière, de l'ambiance, des gens, tout. Bon, j'étais un peu allumée, c'est vrai.
Oui, mais...
Il faut l'avouer.
Vous dites qu'on garde en soi toute sa vie, cette première fois.
Oui, je suis persuadée.
Ça s'est logé en vous et ça vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute ce morceau de musique classique, c'était du Brahms, n'importe où, c'est Jérusalem qui revient. À chaque fois que je reviens, que je suis revenue à Jérusalem, bon, je n'ai pas eu la même émotion, mais il y a quelque chose de cet ordre qui est remonté. C'est vraiment... c'est mystique, je crois. Bon, je ne suis pas croyante, hein, mais c'est mystique.
Mystique, mais pas croyante.
Oui.
Il y a Jérusalem et puis il y a le désert aussi, qui vous a impressionné.
Oui. Le désert, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que, bon, il faut vous imaginer quand même que vivre dans le Nord, naître dans le Nord, sous la pluie, la terre noire, etc., c'est complètement l'opposé. Donc, c'était un rêve. D'abord, c'était un rêve d'enfant. Parce qu'on avait un tout petit livre à la maison qui racontait l'histoire de la sortie d'Égypte, des Hébreux. Et je l'ai eu très, très jeune, ce livre. Et j'étais fascinée par cette histoire et fascinée par ce désert que les Juifs, que les Hébreux traversaient. Et donc, quand je suis arrivée véritablement au bord de la mer Morte et dans le Négev et jusqu'à la mer Rouge, mais là aussi, c'était un rêve. J'avais l'impression de me remplir de lumière, de vivre beaucoup plus intensément. Et en plus, là, j'étais partie en tant qu'aide-cuisinière, il faut toujours travailler au kibbutz, en tant qu'aide-cuisinière avec les jeunes de l'Ulpan. Et les jeunes de l'Ulpan, eux, étaient pratiquement tous juifs. Et donc, on était tous ensemble, et j'étais là, la seule non-juive, et je me disais, mais eux, ils sont chez eux, ils viennent renouer des racines, retrouver des racines. Bon, toi, t'es là comme un petit truc qui ne vaut pas grand-chose, mais tu es là. Et puis, c'est vrai qu'il y a une image qui m'est restée, que j'ai notée dans mon cahier de voyage. On était dans le fond d'une gorge, un oued asséché. Et tout en haut, il y avait un petit arbre, mais tout desséché. Et il y a le guide qui était avec nous. Je lui dis, mais il est mort cet arbre, comment il fait? Et il me dit, non, regarde. Il y a toute la chevelure des racines qui descend le long de la paroi. Et il boit ce qu'il y a dans l'oued. Ce qui reste d'eau dans l'oued. Donc, il est vivant.
Ce n'est pas parce qu'il est sec. Ce n'est pas parce qu'il a l'air sec qu'il est mort.
Ah oui, tout petit, tout sec, etc. Et ça m'est resté là aussi, cette image. Et je me suis dit, mais voilà, pour moi, c'est comme l'image du peuple juif. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être tout petit, très fragile, etc. Mais il a des racines immenses. Et moi, je veux être une petite goutte d'eau pour cet arbre. Pas plus, une goutte d'eau.
Pas plus, justement, puisqu'on parle du désert. Le désert, c'est aussi le lieu de l'alliance du Sinaï, de l'alliance entre Dieu et ce peuple juif. Vous n'avez pas voulu pousser ce compagnonnage
plus loin. J'ai eu des velléités vers 20, 22 ans, non, peut-être plutôt 20 ans. Je suis allée voir le rabbin à Lille et il a bien fait son travail. C'est-à-dire qu'il m'a complètement dégoûtée.
Ah bon ?
Et c'est vrai, ah non, mais il m'a brossé le portrait d'une conversion, ça m'a tétanisée.
Et vous avez pris ça pour argent comptant ?
Ben oui. Il faut dire que je n'étais peut-être pas très décidée. Et en plus, je ne croyais plus en Dieu à l'époque. C'était fini. J'avais coupé.
Vous connaissez suffisamment bien les Juifs pour savoir que...
Oui, maintenant. Maintenant. Après 50 ans, après 50 ans de fréquentation, oui, je sais qu'il aurait fallu insister. Mais d'un autre côté, je crois que je n'étais pas vraiment partante. Pas vraiment partante.
Ça vous convient, cette position ? Vous dites, vous avez une très jolie formule... vous qualifiez votre rapport au peuple juif d'amitié dans le sens ancien. C'est quoi le sens ancien d'amitié ?
C'est une forme de l'amour qui est constructif et qui n'est pas du tout sexuel, bien sûr, mais qui est constructif et qui fait qu'on s'aide l'un l'autre, on s'aide à grandir. C'est pour ça. Et l'amitié.
Vous dites présence et fidélité.
Présence, fidélité et être à côté des gens dans le combat. Et ça, c'est toute ma vie.
Comment est-ce que votre entourage a réagi, votre famille dans le Nord? Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre presque judaïsation?
J'ai eu droit à tout, parce que comme j'ai eu des phases un peu expansives où je prenais la tête de tout le monde en racontant tout ce que je découvrais, donc il y en a beaucoup qui étaient un peu agacés, on va dire. Il y a vraiment des gens dans la famille qui ont été contre, avec qui j'ai balancé les livres au travers de la table le dimanche. D'autres qui... les parents d'une amie... De l'école, donc, catholique, qui m'ont carrément banni de chez eux. Mmh. Ça a été très, très fluctuant, très, très difficile. Et après, dans ma vie, c'est vrai que j'ai été confrontée très souvent à des gens qui venaient me chercher, quoi, en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens ? Ah là là là, t'es de droite, tu dis que t'es de gauche. » Enfin, bon, n'importe quoi. Donc, il y a eu beaucoup de gens contre. Du côté de mes parents, ça a été plus facile parce qu'en fait, maman, je crois qu'elle était à la fois terrorisée et admirative. Donc, elle a bien influencé mon père et mon père ne s'est pas opposé. Parce que quand je suis partie en kibboutz, j'étais pas majeure. Donc, il fallait son autorisation. Voilà, ce sont des choses comme ça. Et puis après, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient pour moi, avec moi, qui suivaient le même chemin que moi. Et à l'heure actuelle, après tout ce cheminement, je me rends compte que j'ai tissé autour de moi, notamment à Toulouse, un réseau de personnes qui sont soit intéressées, soit presque sur le chemin comme moi, soit énormément d'amis juifs. Alors c'est incroyable.
Il y a une autre personne qui a beaucoup compté pour vous, sans que vous l'ayez rencontré, c'est à travers les livres, c'est Vladimir Jankélévitch.
Jankélévitch, oui, ça a été un maître à penser pour moi et un maître à sourire, je dirais. Parce qu'il est... Je trouvais que... Je n'ai pas suivi ses cours en direct. Ce sont des amis qui ont suivi ses cours et qui m'en ont parlé un peu plus, mais moi j'ai adoré ses livres et j'ai surtout adoré l'homme. C'est-à-dire cette façon d'être un philosophe en dehors de toutes les chapelles, d'être un résistant, d'être quelqu'un d'humoristique. Et c'est un musicien.
Ça a beaucoup compté pour vous, ça, dans votre parcours auprès des Juifs ?
Pas plus que Léon Ashkenazi. Voilà. Parce que,
Pas
moi non plus, mais Léon Ashkenazi, ça a été la révélation, l'année où j'ai fait l'été où j'ai suivi ces cours du QEJ, j'avais un cours de pensée juive avec lui. Donc j'ai découvert là un monde que j'ai, en plus, qui m'a passionné. Le décortiquage des textes, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui, là aussi, qui est resté gravé à l'intérieur. Et j'aime faire ça.
Aujourd'hui, 55 ans après ce voyage en Israël, à 18 ans, comment vous trouvez le peuple juif et Israël ?
Alors, le peuple juif, pas de problème. Il a toujours été multicolore, multiforme, bavard et fabuleusement intéressant pour moi. Et c'est vrai que je suis toujours... à l'écoute de ce qui peut me revenir du peuple juif. Voilà. Que ce soit les livres, les discours, la musique, tout. Israël, c'est plus compliqué. Parce qu'Israël, moi, je suis partie là-bas avec le texte de la déclaration d'indépendance d'Israël. Donc, la dernière fois que je suis allée en Israël, c'était en 2018. Et je n'ai pas reconnu Israël.
Pourquoi ?
Le pays est complètement clivé J'ai des amis en Israël qui vivent là-bas et qui ont fait des enfants, des petits-enfants, etc. Et ça me fait peur. Ça me fait peur ce qui se passe. Parce que je vois, bon, sans parler du 7 octobre qui a été une horreur, mais j'ai peur de l'avenir de ce pays. Je voudrais retrouver, moi, le pays que j'ai connu, avec des gens qui se souriaient dans la rue, qui se parlaient, qui étaient... Mais là, quand
qui travaillaient ensemble, en fait.
Qui travaillaient ensemble, mais pas seulement au kibbutz. Les gens étaient adorables. Enfin, vraiment, il y avait une ferveur, il y avait des sourires, il y avait une volonté de construire le pays. Alors, je ne suis pas non plus complètement farfelue. Je sais très bien qu'il y a une réalité, que le monde a changé. Mais c'est vrai que là, le tournant est épouvantable. C'est terrorisant. J'ai peur de ce qui peut se passer, de ce qui pourrait se passer. Et on en parle avec mes amis.
Que le pays se ronge de l'intérieur.
Ah oui, complètement. Qu'il implose.
Qu'est-ce qui manquerait au monde sans les Juifs?
Alors Ruben, je me suis posé des tas de questions à partir de votre question. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que c'est dans l'humanité aucun juif? Ça n'existe pas? Ou tous les juifs ont oublié leurs racines et ils ont disparu comme les Grecs, les Égyptiens? Ou est-ce qu'il y a un virus Hitler qui a décimé tout le monde? Et puis je me suis dit non, c'est pas ça. Et puis j'ai fait un petit détour. Et je crois que c'est ma fréquentation du monde juif qui me fait faire ça. Et je me suis dit non. Le monde sans les Juifs, c'est un violon sans âme. Un violon sans âme. Ces petits bouts de bois qui rejoint les deux parois du violon et qui fait tout résonner. Et s'il n'est pas là, il s'écrabouille, le violon. Il se fendille, il n'existe plus. Voilà, c'est ça.
Ta toute petite goutte.
Ta toute petite goutte d'eau. Et l'âme du violon.
Dernière question. Martine Merlinden, pour conclure cet entretien, tout ce que vous venez de nous raconter, ou presque tout, vous l'avez consigné dans un petit livre qui s'appelle « Juif de cœur », publié chez l'Harmattan, que je recommande de lire, bien sûr. Pourquoi c'était important pour vous de mettre tout ça par écrit?
Justement, à cause de ce que il a été publié en 2022. Et c'est justement à cause de ce que j'ai découvert en 2018 en Israël. Je me suis dit, il faut que je témoigne de ce qu'était Israël avant, que je réveille les gens qui ont cru en cet Israël-là et qu'on se mobilise, qu'on aide les Israéliens à s'en sortir. Ça a été vraiment ma démarche de fond quand j'ai fait ça.
Merci infiniment, Martine Merlinden.
Merci Ruben, merci beaucoup.
Presque juif, une production Akadem. Conception et présentation, Ruben Honigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.